Chapitre 4. Il rampait, collé au sol, escaladant le plus rapidement possible les bourrelets de chair qu'encadraient les parenthèses de rides. Lisa avait fermé les yeux pour ne plus voir la peau blême au grain lâche en pleine dégénérescence. Cet îlot de sénilité, ce territoire de mort prochaine, planté comme un chancre au beau milieu du corps de la bête, la fascinait au plus haut point. C'était comme une pièce rapportée après un accroc. Un carré de tissu ancien sur un vêtement neuf. Un morceau de redingote cousu sur une barboteuse. Perdue dans ses pensées, elle buta contre le flanc du mamelon. Et ce choc, si infime fut-il, courut le long de la grosse glande affaissée jusqu'au téton dont la pointe s'érigea lentement en bourgeon violet. God se trouvait déjà à mi-pente. Il lui fit signe de se presser. Elle contourna la colline et se lança dans l'escalade du versant, les coudes et les genoux à vif. Leur approche fit monter un frisson vers l'auréole qui se fripa et durcit. Arrivés au sommet, ils s'adossèrent aux tétons turgescents et observèrent la plaine. « S'ils tentent de nous encercler, on les verra approcher, » dit sombrement le jeune homme. « Si vous repérez une ride qui s'en trouve ou qui baille, prévenez-moi aussitôt. Ils peuvent se cacher n'importe où et se déplacer de crevasse en crevasse. » Certains ont même creusé des tunnels qui relient toutes les rides entre elles. Avec un peu de chance, ils sont capables d'atteindre le bas de la mamelle sans avoir mis le nez dehors une seule fois. Lisa luttait contre les courroies de son sac que la graisse rendait rebelle à tout démêlage. Ses doigts glissaient sur l'étoffe engluée sans parvenir à assurer leur prise. God vint à son secours. Ses ongles taillés en pointe firent merveille. Lisa préleva 6 tablettes, entendit 3 à son compagnon. « Maintenant, il faut tout me dire, » grogna-t-elle entre deux bouchées. « Il y va de ma survie. Essayez d'oublier que je suis une espionne du ministère de la Recherche. »« À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à raconter, » fit-il sourdement. Après la disparition des réserves alimentaires, il a bien fallu commencer le travail d'observation. Mikoski a donc divisé la mission en 7 équipes d'une 30aine de personnes chacune. Ces groupes d'études se sont partagés l'exploration de l'animal, le tronc, l'abdomen, le dos, les membres inférieurs et supérieurs. Bref, le bloc initial a éclaté. La consigne était simple, dresser une carte anatomique aussi complète que possible, effectuer des prélèvements, des analyses, sans jamais porter préjudice à l'animal. Au bout de 3 mois, toutes les équipes devaient revenir au camp de base, chacune porteuse de sa pièce de puzzle. Les résultats seraient mis en commun pour brosser une première esquisse géographique de la bête, etc. Comme vous le savez probablement, le magnétisme de la force d'attraction artificielle empêche la propagation des ondes. Il n'était donc pas question de rester en contact radio permanent et 10 jours se sont écoulés sans qu'aucun des groupes d'exploration ne puisse avoir la moindre relation avec les autres. J'étais restée au camp de base avec Mikoski, au PC de coordination, comme on l'appelait alors pompeusement. Au bout du 4e mois de silence, nous avons commencé à ressentir un certain malaise. Les 3/4 de la mission avaient disparu et personne ne savait ce qu'ils étaient devenus. Cette fois, Mikoski a dépêché des messagers anatomiques, des bons coureurs chargés d'établir la liaison avec les isolés. Beaucoup ne sont jamais revenus. Quant à moi, ce que j'ai pu voir m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Il observa une pause, mâcha la moitié d'une tablette nutritive. Lisa chercha une autre position. Dans son dos, le téton avait repris son aspect mou, flasque, la privant d'appui. Partout s'est opérée une symbiose alimentaire et physiologique, reprit Gott, les yeux dans le vague. Les différentes hormones approuvant les territoires explorés ont communiqué aux hommes leurs caractéristiques essentielles. Elles ont agi sur eux comme sur la bête, les modifiant comme elles ont modifié la machine organique de l'animal. Vous voulez dire qu'ils sont tous devenus des monstres ? Tous ? Non. D'abord, je ne les ai pas tous répertoriés. Ensuite, il m'a semblé que dans plusieurs cas, la symbiose s'effectuait de manière psychologique. J'ai vu des adultes, des scientifiques, qui avaient perdu conscience de leur individualité, qui s'assimilait à la bête au point de se prendre pour l'un de ses organes. Ils défendent farouchement leur territoire contre toute intrusion, baptise les étrangers microbes et se jette sur eux comme le ferait n'importe quel leucocyte mis en présence d'une bactérie. Je n'exagère pas. Il les phagocyte, les dévore à l'instar de leurs frères les globules blancs. J'ai assisté à des scènes de cannibalisme épouvantable. Rien ne peut les raisonner. Ils semblent avoir abandonné tout comportement humain. Ils ne sont plus que des cellules, des atomes travaillant à la survie d'un grand tout. D'autres ont subi une métamorphose biologique, comme ces êtres à la fois vieillards et nourrissons qui sont peut-être en train de nous encercler en ce moment même. Mais vous, objecta Lisa et Mikowski, pendant des mois, vous vous êtes partiellement nourri de la bête. Pourtant, vous ne présentez aucun trouble. Je sais. Je pense qu'il existe en quelque sorte des zones neutres, où l'apport hormonal n'affecte pas notre organisme. Comme j'avais emporté des rations de viande séchée prélevées sur le site du PC de coordination, j'ai pu, durant toute ma mission, me dispenser de tailler ma pitance dans des territoires néfastes. Bien m'en a pris. Lisa se mordait nerveusement la lèvre inférieure. Elle était abasourdie. Une sensation de flottement s'emparait lentement de son cerveau. « Et ce n'est pas tout, » enchérit Gott. « J'ai remarqué deux ou trois choses assez inquiétantes au cours de ma déambulation. L'animal qui était sain à notre arrivée présente maintenant des signes manifestes de délabrement physique. Des affections localisées, telles cette contrée sénile infantile que nous traversons, des zones d'infection, des eczémas, des sécrétions adipeuses qui n'existaient pas le jour du débarquement. C'est inexplicable et dangereux. Lorsque je vous ai vu descendre, j'essayais de rallier Mikowski. Je ne sais pas ce qu'il va décider. Il faut prendre contact avec les malades, tenter de les ramener et de les soigner. Plus aisé à dire qu'à faire. Je vous ai prévenu, il y a les monstres. Il y a ceux qui se prennent pour des prolongements de la bête. Aucun ne nous fera la vie facile. » Il se tut, suivi d'un œil inquisiteur le tressaillement d'un repli de peau en contrebas. Spasme nerveux ou progression souterraine? C'était impossible à définir. Lisa chercha machinalement autour d'elle, provoquant un ricanement du jeune homme. « Pas la peine. Vous ne trouverez rien sur le sol qui puisse vous servir d'arme improvisée. Ni bâton ni caillou. Abandonnez vos anciens réflexes. Vous n'êtes pas sur une quelconque planète ici. Vous marchez sur le ventre d'un organisme vivant en cours d'hibernation. » Il fit une pause avant d'ajouter « Si seulement nous avions un simple fusil de chasse. Vous n'aviez vraiment aucune arme en débarquant? Pas l'ombre d'un lance-pierre. Le ministère de la Recherche tenait beaucoup trop à son jouet. Il préférait risquer notre peau. » Il sursauta, pointa son doigt sur la plaine. « Regardez, tout près des cadavres marquant le centre de la constellation des taches de vieillesse, la crevasse d'une ride venait de béer. Trois paires de mains jaillirent de cette caverne horizontale, s'abattirent sur les corps et les tirèrent dans les profondeurs du repli moite qui se referma mollement. « C'est ce qui va nous arriver si nous traînons trop longtemps ici, » conclut lugubrement le garçon. « Il faut quitter la zone sénile au plus vite. Vous avez récupéré ? Vous pensez pouvoir courir sur une distance d'un kilomètre? Le moyen de faire autrement? Ok, on y va. » Ils reprirent chacun leur sac, en assurèrent les harnais, puis dévalèrent la pente du mamelon, les coudes hauts, inspirant profondément l'air raréfié de la micro-atmosphère. Lisa fut très vite couverte de sueur. Le manque d'oxygène épaississait son sang, ses muscles mal irrigués étouffaient dans leurs déchets. L'accumulation d'acide lactique vrillait des crampes dans ses cuisses et ses mollets. Elle serra les mâchoires à s'en faire éclater les dents. À chaque foulée, ses pieds nus enfonçaient dans la chair distendue du sol avec un affreux bruit de succion. Elle courait, sautant les fossés, les crevasses, escaladant les monticules. À présent, elle avait l'écume à la bouche et le visage violet. Pour comble de malheur, elle trébucha sur une verrue et s'étala de tout son long. Elle ne se fit pas mal, mais pendant plus d'une minute, elle resta allongée sur le sol, incapable de tirer la moindre parcelle d'énergie de ses jambes durcies. Stupidement, elle remarqua que ses ongles étaient bleus et que de fines vénules avaient éclaté sur la peau de ses cuisses. Au moment où elle tenta de se redresser, une main se referma sur sa cheville, la tirant en arrière. Elle voulut hurler, mais ne parvint à émettre qu'un couinement ridicule, inaudible. Une ride venait de s'entrebâiller, laissant émerger un vieillard aux bras déchirés et aux mains avides. Ses doigts griffaient le mollet de Lisa, y creusant de longues zébrures écarlates. Paralysée par l'épouvante et la fatigue, la jeune femme ne trouvait même plus la force de se débattre. Elle se laissa aller vers la faille comme une poupée privée d'armature. Un second spectre jaillit du trou. Sa tête de nourrisson paraissait rapportée sur son torse de centenaire. Il gazouilla, bava une bulle et se mit lui aussi à tirer. Des pleurs d'enfants et des ricanements d'ancêtres montèrent pêle-mêle de la moiteur du repaire. La fente ouvrit sa crevasse zigzagante, dévoilant une dizaine d'hybrides tassés les uns sur les autres. Une vingtaine de mains se tendirent vers Lisa, araignées arthritiques et menottes potelées confondues. La vue du cloaque ranima la jeune femme. Elle battit des pieds, frappant ses agresseurs en pleine poitrine. Ni l'un ni l'autre ne purent affronter la ruade. Les deux gargouilles perdirent l'équilibre, s'écrasant au milieu des mains brandies. Lisa se redressa, les poumons en feu, la tête lourde d'une migraine due à la mauvaise irrigation de son cerveau. Elle ne voyait plus rien, elle n'entendait plus rien que le bouillonnement du sang à ses tempes. Elle parcourut 10, 20, 30 mètres en aveugle. Une douleur envahissait progressivement sa poitrine, irradiant dans son bras gauche. Elle trébucha sur une autre verrue, s'affala. Cette fois, elle n'eut pas le courage de se relever. Elle s'abandonna, attendant avec résignation l'étreinte des gnomes. Une main se posa sur sa nuque. « C'est fini, » souffla la voix de Goth. « On est passé. »